Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine.
Pendant longtemps, l'histoire a retenu d'Alexandre Farnèse l'image d'un chef de guerre brillant, héros de bataille décisive à la fin du XVIe siècle. Mais le réduire à son épée, ce serait passer à côté de l'essentiel. Car derrière le capitaine, il y a aussi un prince. Il est par son père l'héritier d'une famille italienne en pleine ascension. Et par sa mère, il est directement lié aux Habsbourg, la plus grande famille européenne de son temps. Bref, une double ascendance prestigieuse qu'on va prendre le temps d'analyser aujourd'hui avec Olivier Poncet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes archiviste, docteur en histoire et membre correspondant de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Et vous êtes l'auteur d'une biographie sur Alexandre Farnèse, prince et capitaine, que vous avez publié en 2025, en décembre dernier, aux éditions Perrin. Et je crois que l'une des ambitions de ce livre, c'est de montrer qu'Alexandre Farnèse ne se résume pas à sa carrière militaire. Vous parlez d'un personnage plus complexe. Et ce mot-là, complexe, apparaît à plusieurs reprises dans votre livre. C'était un trait de sa personnalité, de son parcours, que vous vouliez faire apparaître et auquel vous teniez.
Oui, c'est pour ça que j'ai sous-titré l'ouvrage « Prince et capitaine », pour effectivement prendre la mesure... Non pas tant peut-être de la complexité que plutôt de l'étendue en réalité de ce que nous révèle ce personnage, tant au plan domestique, c'est un fils, un père, un grand-père, mais c'est aussi un prince souverain, comme vous l'avez dit, issu de très grandes familles. C'est un capitaine parce que c'était l'essentiel de son activité durant son âge adulte, mais c'est aussi par ses fonctions, par son rôle joué dans les querelles et les conflits européens, c'est quelqu'un qui a une vision géopolitique, une vision même politique de l'espace qu'il a en particulier gouverné pendant une quinzaine d'années, à savoir les Pays-Bas espagnols, pour le dire rapidement, nos départements septentrionaux du Pas-de-Calais et du Nord, et toute la Belgique, ainsi que les Pays-Bas actuels. Et donc, c'est un personnage qui est intéressant parce que, justement, il ne se résume pas à une fonction particulière, qu'elle soit militaire ou politique. Voilà, c'est quelqu'un qui a, d'une certaine manière, touché et plutôt bien réussi dans l'ensemble de ses fonctions.
Et c'est un personnage, paradoxalement, assez mal connu des Français, en France. Et pourtant, il a une carrière, comme vous le disiez à l'instant, profondément ancrée sur le continent européen, à travers l'Italie, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, comme vous le disiez.
Oui, tout à fait. L'ouvrage poursuit en réalité deux buts ou deux défis que je me suis donné. D'une part, restituer à cette période que nous résumons en France sous l'époque des guerres de religion, sa dimension européenne, redonner vie à des acteurs que l'on connaît seulement de nom, mais dont on n'a pas nécessairement idée de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont voulu. Ça, c'était le premier volet. Et le deuxième, c'était de dire à quel point ce personnage, ses actions, sont aussi une part de l'histoire de France. Dans la mesure où il est intervenu, où il a compté pour les souverains, il a compté pour les populations, il a compté dans les débats politiques et dans les querelles militaires. Et donc, il me semblait que c'était une façon d'enrichir, en quelque sorte, le point de vue que le lectorat français peut avoir de cette période de la deuxième moitié du XVIe siècle.
Alors cet ouvrage, comme vous l'avez dit, vous l'avez intitulé « Alexandre Farnèse, prince et capitaine ». Alors pourquoi prince ? Il est l'héritier d'une famille, la famille Farnèse. Aujourd'hui, ce nom évoque un certain prestige, un certain luxe, mais elle n'a pas toujours été riche. D'où elle vient cette famille Farnèse ?
Alors, les Farnèse sont de petits seigneurs du nord du Latium, c'est-à-dire la partie nord de Rome, qui sont généralement occupés à faire la guerre, qui prêtent leurs bras soit à Venise, soit au pape. Et donc ça, c'est ce qui va les occupés pendant à peu près deux siècles, au XIVe et XVe siècle, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, Alessandro Farnèse, le premier Alexandre de la famille, gagne les carrières ecclésiastiques au service du pape, et très rapidement, il devient un des principaux membres du Sacré Collège. Et finalement, il est élu pape en 1534, sous le nom de Paul III. C'est un des très grands papes du XVIe siècle. C'est quelqu'un qui clôt, d'une certaine manière, l'épisode de la Renaissance et qui prépare la papauté à un changement profond, et donc d'une certaine manière, il positionne la papauté dans une optique de reconquête, que certains appellent de contre-réforme catholique. Par ailleurs, il n'oublie pas ses intérêts personnels et familiaux, et il se trouve que c'est un cardinal de la Renaissance avec tout son luxe, comme vous l'avez dit, mais aussi ses excès, ou en tout cas ses comportements qui peuvent nous paraître aujourd'hui hors de propos pour un personnage de l'Église. Il a quatre enfants d'une même femme, quatre enfants qu'il fait reconnaître comme légitimes par les différents papes, et qu'il installe, soit par des mariages, soit par des fonctions dans l'Église ou dans la vie civile. Il crée en particulier en 1545 un duché, le duché de Parme et de Plaisance, pour le donner à son fils Pierre Luigi, qui se trouve être le grand-père de notre Alexandre Farnèse. Donc l'année même où Alexandre, le nôtre, celui du livre, apparaît sur la scène de l'histoire. Et donc effectivement, de ce point de vue, les Farnèse sont une famille à la fois puissante dans l'Église, puissante dans l'Italie de cette époque-là.
Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, par rapport à ce pape, ce personnage que vous venez de décrire, Paul III, Alessandro Farnèse, Alexandre Farnèse, il est qui par rapport à l'Alexandre Farnèse qui nous intéresse?
C'est son arrière-petit-fils.
Son arrière-petit-fils.
En fait, Alexandre, le nôtre, celui du livre, est le fils de Ottavio, Octave, qui lui-même est le fils de Pierre-Louis, Pierre-Luigi, qui lui-même est le fils de Paul III. Voilà, c'est comme ça que la succession se fait, effectivement. Et Octave, le père d'Alexandre, a épousé la fille illégitime de Charles Quint, le fondateur de la puissance des Habsbourg dans l'Europe de ce temps. Donc il se trouve être l'arrière-petit-fils du pape et le petit-fils de l'empereur, puisque Charles Quint, à partir de 1519, est empereur du Saint-Empire. Non seulement il règne sur les royaumes espagnols, et donc tout leur territoire ultramarin, de Manille au Mexique et au Pérou, mais il est effectivement aussi la principale puissance de l'Europe centrale, dans l'Empire, et également dans les Pays-Bas, qui sont en fait l'héritage bourguignon, la Franche-Comté, et puis toutes les petites principautés qui sont agrégées pour former justement ce qu'on appelle les Pays-Bas.
Et dont on va reparler aussi tout à l'heure.
Bien sûr.
Oui, c'est ça, il faut bien retenir cette chose, c'est que quand Alexandre Farnèse vient au monde, l'Europe est dominée par cette famille, cette superpuissance, les Habsbourg, qui contrôlent, comme vous l'avez dit, l'Europe, une partie de l'Italie, le Saint-Empire germanique. Et le souverain de cet empire, au moment où Alexandre Farnèse naît, c'est Charles Quint. Donc Charles Quint, qui est le grand-père d'Alexandre Farnèse, et pour autant, Alexandre Farnèse n'appartient pas, on ne peut pas dire qu'il appartient à la dynastie des Habsbourg, parce que sa mère est la fille illégitime de Charles Quint, c'est ça?
Vous avez raison. Alors, du point de vue de Charles Quint, qui a eu d'autres enfants hors mariage, je pense en particulier à Don Juan, dont nous reparlerons tout à l'heure, qui se trouve être le demi-frère de la mère d'Alexandre, le demi-frère de Philippe II. En réalité, pour les princes de cette époque, même les enfants qualifiés de bâtards comptent. Et donc, on considère ces enfants comme des ressources, d'une certaine manière, pour gouverner, pour agir, pour contracter des mariages. Donc, il y a des plafonds de verre. Malgré tout, quand je qualifie Alexandre de prince, c'est parce qu'il est aussi considéré comme un membre de la famille des Habsbourg. Et Alexandre n'a cessé d'être considéré comme un membre à part entière de la famille. Il est qualifié de « mon neveu » par le roi d'Espagne. Et à la fin de sa vie, il a même demandé... Alors, la lettre n'est pas conservée en original, mais il est très probable que ce qu'elle ait été envoyée. Il a même demandé à Philippe II de pouvoir ajouter le nom de Habsbourg au sien. Donc il se serait appelé Farnèse Habsbourg, d'une certaine manière, pour bien marquer l'idée qu'il n'est pas que Farnèse, et par rapport aux autres princes italiens, il appartient à cette sphère familiale qui, effectivement, domine l'Europe de ce temps.
Donc les familles Farnèse et Habsbourg sont très liées. Quand on est dans ce genre de famille, il y a peu d'options de carrière, entre guillemets. On ne choisit pas sa voie comme aujourd'hui. Parmi les options, on peut faire la guerre, gouverner, ou alors rentrer dans les ordres. Qu'est-ce que choisit Alexandre Farnèse ?
Choisir, et peut-être effectivement, vous avez raison, un mot un peu fort, puisqu'on ne choisit pas réellement, mais en réalité, assez jeune, il s'intéresse à des questions que nous qualifierions de militaires au sens large, aussi bien de formation personnelle, l'art de combattre, que de savoir assiéger les villes, de s'intéresser finalement à ce qui fait l'intégralité des responsabilités d'un général ou d'un officier. Mais la première étape pour un jeune homme de cette époque-là, c'est de se marier. Et donc, les parents vont chercher effectivement les alliances les meilleures, toujours avec le secours de Philippe II. Et donc, en 1556, Alexandre est envoyé à Gand, puis à Bruxelles. Et ensuite, il va suivre Philippe II à son retour, après 1559, en Espagne. Et là, il va avoir une véritable culture espagnole, qui fait que cet Italien, qu'il reste jusqu'au bout de son existence, prend un certain nombre d'habitudes, de traits d'esprit et de caractère, qui le font passer parfois pour certains, pour un Espagnol, en particulier aux yeux des élites et des aristocrates des Pays-Bas espagnols. Et donc, la période espagnole se clôt, en réalité, pour Alexandre, par un mariage.
Alors, il se marie avec qui ?
Les parents ont réussi à contracter une alliance avec la famille de Portugal. Il épouse, non pas une infante, mais la fille d'un infant de Portugal. Mais par le jeu des successions, il est potentiellement héritier de la couronne de Portugal, ce qui signifie effectivement, là aussi, un empire ultramarin. Le Portugal est un petit pays, mais avec un immense empire ultramarin. Le Brésil, les comptoirs des Indes. Et donc, d'une certaine manière, il a un monde entier qui peut s'ouvrir devant lui. Donc, il épouse Marie de Portugal en 1565 à Bruxelles, dans des fêtes fastueuses. Et puis, après le mariage, il quitte les Flandres au moment où ce pays, les Pays-Bas, entre en révolte contre Philippe II. Mais pour l'heure, ce n'est pas son souci principal, c'est de trouver une existence à la mesure de ses envies militaires.
Il va rentrer en Italie, dans un premier temps, à Parme. Oui. Et puis, comme vous l'avez dit, il va être impliqué, il va s'engager dans des batailles bien connues, historiques, notamment la bataille de Lépante. Donc c'est une ligue chrétienne qui a été formée par le pape pour combattre les Ottomans qui sont en train de conquérir de plus en plus la Méditerranée. Farnèse s'engage dans cette bataille. C'est un succès, on peut dire ça ?
Alors, pour Alexandre Farnèse, personnellement, c'est un succès. Il y a fait preuve de courage. Visiblement, en tout cas, aucune source ne vient contredire ce qu'en disent les différents auteurs. Il a montré du courage, il a conquis une galère, il est couvert de gloire à la suite de cette bataille. La bataille elle-même, et Fernand Braudel y a beaucoup insisté, n'est pas nécessairement décisive parce que la puissance turque a tellement de force d'inertie qu'en réalité, ils peuvent perdre un certain nombre de navires et d'hommes. Ça n'entame pas nécessairement leur domination sur la Méditerranée orientale, qui est acquise depuis le début du XVIe siècle. Et d'ailleurs, on voit que Philippe II, dans les années qui ont suivi les Pentes, a plutôt cherché un accommodement avec les Turcs par une négociation de paix en particulier, parce que lui-même doit tourner ses forces et son énergie ailleurs, vers d'autres lieux qui, en fait, vont intéresser directement Alexandre Farnèse, à savoir les révoltés des Pays-Bas.
Avant de parler des Pays-Bas, expliquez-nous un petit peu plus en détail les qualités qui ont fait de lui un bon chef militaire. Est-ce que Alexandre Farnèse cochait toutes les cases d'un bon capitaine ?
Alors, c'est quelqu'un qui a d'une certaine manière à la fois pris tout ce qu'il pouvait de la théorie militaire. Il y a beaucoup de traités qui sont publiés à cette époque-là sur justement comment doit se comporter un bon chef militaire. Donc, il a lu des livres. Tout simplement, il a été à l'école des livres. Mm-hmm. Et puis, il a également, effectivement, appris son métier au contact des généraux, au contact des hommes. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup passé de temps avec des ingénieurs, en particulier des ingénieurs capables de mobiliser l'artillerie pour mettre en place des sièges ou pour construire des fortifications. Donc, à la fois assiéger et défendre. Et donc, tout cela l'a nourri d'un art militaire relativement complet, aussi bien cavalerie qu'infanterie qu'artillerie. Tout au long de sa vie, il a fait preuve d'une incroyable remise en cause et d'une inventivité dans la manière de résoudre les problèmes militaires qui lui sont posés. Et donc, ça a beaucoup surpris ses ennemis à chaque fois, parce qu'il fait des choses auxquelles on ne s'attend pas nécessairement. Et c'est aussi ce qui lui a valu cette réputation de général victorieux, qui est toujours capable, finalement, de résoudre un problème qui se pose à lui. Ça vient effectivement de cette grande ouverture d'esprit, une forme d'intérêt marqué pour la chose militaire. C'est-à-dire qu'il ne subit pas, il a vraiment un intérêt et un goût marqué pour la chose militaire, qui, effectivement, ne doit pas faire oublier toutes les autres qualités par ailleurs, mais il puise dans cette capacité, finalement, à rebondir, à inventer sur le site même des combats, des solutions qui font de lui un personnage, finalement, qui étonne l'ensemble de l'Europe et qui suscite l'admiration même de ses adversaires.
Cette intelligence tactique, elle lui permet de prouver qu'on peut compter sur lui. Il a la confiance de Philippe II, qui est donc le souverain de la famille des Habsbourg. Et ce Philippe II, il fait appel à lui pour l'envoyer aux Pays-Bas espagnols. Alors, il connaît bien le terrain, Alexandre Farnèse, puisqu'il a vécu déjà quelques années sur ce territoire. Qu'est-ce qui se passe exactement aux Pays-Bas espagnols sur ce territoire pour qu'on y envoie Alexandre Farnèse ? Alors, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué. Et en même temps, c'est un cas d'école qui rejoint d'une certaine manière ce qu'on observe ailleurs en Europe, c'est-à-dire que la population, une partie de la population s'est convertie au protestantisme. Donc la querelle confessionnelle est le premier moteur de la révolte des Pays-Bas contre leur souverain légitime qu'est Philippe II, le roi d'Espagne.
Qui est catholique.
Et le deuxième ferment de révolte et d'opposition réside en réalité dans la relation contractuelle qu'ont ces territoires, et en particulier leurs élites, aussi bien bourgeoises des villes que aristocratiques traditionnelles, avec leur souverain sur la question fiscale, sur la question judiciaire, institutionnelle, et en particulier le reproche qui est fait au roi de ne pas respecter les privilèges de ces territoires, de les faire gouverner par des Espagnols. Et donc cet ensemble de griefs et de véritables dissension avec le pouvoir vient à se cristalliser et se coaliser dans les années 1566-1568, avec dans un premier temps une fin de non-recevoir de l'Espagne avec ce qu'on a appelé la révolte des gueux, hein, qui ont été qualifiés comme tels par un membre de l'aristocratie espagnole de la cour de Marguerite de Parme. Par défi, ils ont repris à leur compte ce terme de gueux, en disant « nous sommes bien des gueux », pour effectivement coaliser l'ensemble d'une population qui va depuis la population, je dirais, la plus modeste jusqu'aux élites. Il y a une forme de consensus pour rejeter le pouvoir espagnol. Et puis, effectivement, tout ceci s'arc-boute sur une différence de religion revendiquée, donc autour de la question protestante, qui aboutit en 1568 à la révolte des Pays-Bas. 1568, c'est le début de ce qu'on a appelé la guerre de 80 ans, qui ne prend fin qu'en 1648 lors des traités de Westphalie. Et c'est cet espace de 80 ans qui est la plus longue guerre que le continent européen a connue au cours de l'époque moderne et même jusqu'à nos jours, d'une certaine manière. C'est la dernière grand conflit qui a mobilisé énormément de forces, qui a alimenté des traités, qui a alimenté des expériences politiques, qui a bloqué d'une certaine manière la puissance espagnole et ses finances pendant de très très nombreuses décennies. Eh bien, c'est ce conflit que Alexandre Farnèse va être invité à essayer de résoudre autant qu'il le peut durant son existence.
Concrètement, comment il fait pour calmer toutes ces révoltes ? Il va finir par gouverner le territoire, mais pas dans les premières années.
Non. Alors, il arrive en fait aux Pays-Bas à l'invitation de Don Juan, que Philippe II a nommé comme gouverneur des Pays-Bas, après une série de gouverneurs, dont le duc d'Albe, qui avait été à la fois des gens très durs, mais qui n'étaient pas des gens qui pouvaient se rapprocher du sang des Habsbourg. Donc, après Marguerite, la mère d'Alexandre, ce sera Don Juan, qui se trouve être le demi-frère de Philippe II. Et Don Juan, qui connaissait Alexandre Farnèse, lui dit viens m'aider. Donc il arrive à la fin de l'année 1577. Il se trouve qu'à ce moment-là, Alexandre est veuf, puisque Marie de Portugal est décédée en juillet 1577, le laissant père de trois enfants, une fille et deux fils. Donc ce qui est plutôt une situation familiale favorable pour une dynastie qui a besoin d'assurer à la fois des alliances et des positions dans les différents lieux de pouvoir. Donc il arrive à la fin de l'année 1577 et il faut voir qu'à la fin de l'année 1577, sur les 17 provinces traditionnelles, l'Espagne n'en contrôle plus que deux, Namur et le Luxembourg, donc dans la partie sud-orientale des Pays-Bas. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est effectivement se livrer à des batailles. Et il va en remporter une célèbre à Gembloux, à la fin du mois de janvier 1578, qui marque un coup d'arrêt finalement à ce recul permanent qu'ont subi les Espagnols. Et donc, il y a une reconquête qui va se poursuivre tout au long de la période au cours de laquelle Alexandre est gouverneur, puisque à l'automne 1578, Don Juan disparaît. Il meurt et Alexandre, qui est l'adjoint le plus proche de Don Juan, est nommé par Philippe II gouverneur, comme la solution la plus évidente pour le roi d'Espagne. Et donc à partir de ce moment, il est gouverneur et capitaine général. Donc là, on retrouve vraiment ces deux pôles de pouvoir que sont le contrôle de l'armée d'une part, le contrôle politique, donc nomination des officiers, gestion de la fiscalité, traitement des affaires politiques, de relations avec les villes. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, Alexandre va jouer sur ces deux leviers pour reconquérir, pour réconcilier, c'est le terme qui était employé à l'époque, ces provinces à l'obéissance du roi d'Espagne. Et il va agir de manière effectivement assez habile. Il va commencer par diviser pour régner, d'une certaine manière, en détachant les provinces du Sud, qui ont des revendications qui sont compatibles avec les attentes du roi d'Espagne, le catholicisme, parce que ce sont des provinces catholiques, mais qui ont besoin d'être rassurées sur le respect de leur autonomie, sur l'éloignement des troupes espagnoles. Donc c'est ce qu'on va appeler l'Union d'Arras, qui en fait est le traité passé entre Alexandre pour le roi d'Espagne et les grandes villes et les grands aristocrates de nos actuels départements du Pas-de-Calais et du Nord, donc c'est-à-dire Arras évidemment, c'est-à-dire Lille, c'est-à-dire le Hainaut, Valenciennes, toutes ces régions-là. Donc là, c'est une vraie reconquête importante pour lui. Ce qui va susciter en retour une union dite d'Utrecht qui va coaliser en fait les provinces du Nord, plutôt protestantes, et qui va, d'une certaine manière, mettre face à face deux blocs. Donc Alexandre va récupérer dans cette histoire à la fois la paix dans ces territoires du Sud, des troupes, et puis il va commencer, effectivement, à partir de ce moment-là, à reconquérir, et là c'est tout son art militaire, ville par ville, espace par espace, ce que nous appelons aujourd'hui la Belgique, si vous voulez. Et donc là, il y a effectivement une quinzaine d'années de conquête qui s'achève en 1585 par la prise de la ville d'Anvers, qui est la plus grande ville des Pays-Bas, qui était la perle des Pays-Bas à l'époque de Charles Quint, une ville extrêmement riche, une ville ouverte sur le monde, une sorte de magasin du monde, si vous voulez. Donc pour lui, c'est une très grande victoire, une victoire de la ténacité, de l'esprit, parce qu'il a fait construire un pont qu'aucun de ses officiers ne pensait concevable, qu'on a appelé le pont Farnèse, qui était en fait un pont destiné à empêcher l'approvisionnement des assiégés par la mer, qui est resté en fait dans les mémoires comme un acte d'ingénierie militaire absolument exceptionnel. Et ça, c'est vraiment le point maximum de son avancée. Parce qu'après 1585, Philippe II, en fait, change de stratégie, ou en tout cas de centre d'intérêt, et il va détourner une partie des efforts d'Alexandre vers d'autres objectifs.
Et alors justement, en étant nommé gouverneur du territoire, il prouve qu'il est un excellent chef militaire et aussi un bon gouverneur. Mais je voulais revenir sur ce terme-là de gouverneur. Parce qu'en étant gouverneur, il est la voix du souverain d'Espagne, donc Philippe II. Dans les faits, Alexandre Farnèse, est-ce qu'il a eu une autonomie dans la gestion de ce territoire ou pas? Vous venez de dire que Philippe II a réorienté ses efforts, ça nous laisse penser que plutôt non. Quelle était la marge de manœuvre d'Alexandre Farnèse quand il était gouverneur des Pays-Bas espagnols?
Oui, effectivement, c'est une très bonne question parce que ça n'a pas été simple ni pour l'un, Alexandre, ni pour l'autre, le roi. Premier accro, si j'ose dire, assez tôt, en 1579, après les premières victoires d'Alexandre, Philippe II décide qu'il serait mieux pour lui de partager le pouvoir de gouverneur et de capitaine. Et donc, il demande à Alexandre de s'effacer du pouvoir de gouverneur. Et donc, c'est un jeu qui va durer 2 ans. Alexandre disant, moi, je veux disposer de l'intégralité des pouvoirs parce que pour vaincre, pour réconcilier les provinces, j'ai besoin des deux leviers dont je parlais tout à l'heure. Mmh. J'ai besoin de pouvoir faire de la politique et j'ai besoin de pouvoir faire la guerre. Au bout de 2 ans de négociations, Philippe II lui confirme l'intégralité de ses pouvoirs. Donc ça, c'est le premier accroc. Le deuxième, en fait, il naît tout simplement du fait qu'Alexandre a les moyens d'agir et progressivement, il est moins l'envoyé du roi que le représentant du roi qui conquiert une forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'en fait, il a un charisme personnel qui fait chuter à presque zéro le nombre de mutineries dans l'armée espagnole, qui était une des grandes calamités de cet ensemble militaire, d'une part. Et d'autre part, il est perçu par les autorités locales comme la personne capable de défendre les intérêts économiques, sociaux, politiques de la région. Il est très attentif, par exemple, à ce que la justice soit bien rendue par des autorités civiles et non pas par des aristocrates qui pourraient éventuellement avoir une attitude plus arbitraire, plus autoritaire, etc. En 1588, nouvel accroc assez fort, dont Alexandre se tire bien, il crée un conseil des Pays-Bas à Madrid qui, en fait, servirait d'interface entre le souverain et Alexandre. Et ça, Alexandre ne le veut absolument pas. Il veut conserver ce rapport direct au roi parce qu'il est justement un prince. Et jusqu'à la fin de sa vie,
ça va
s'accélérer, effectivement. On sent un souverain espagnol de plus en plus ombrageux, suspicieux. Et donc, c'est un petit peu le second volet de la vie aux Pays-Bas d'Alexandre. C'est qu'il va se trouver, non pas en opposition frontale, mais toujours avec le mauvais rôle, d'une certaine manière, de conseiller le roi en lui disant « Mais vous vous trompez, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Mais il reste obéissant. Donc c'est un prince et un capitaine.
Vous dites qu'il restera toute sa vie obéissant, et je vous cite, vous dites qu'il s'interdit d'avoir un destin politique indépendant, qu'il éleva sans cesse son esprit au-dessus de considérations toutes personnelles, sans chercher à se tailler une principauté. En fin de compte, le destin d'Alexandre Farnèse, c'est quand même servir l'Empire des Habsbourg. Ou c'est trop réducteur?
En fait, Alexandre, il a un seul objectif souverain, c'est Parme. En 1586, il devient duc de Parme, après le décès de son père. Et donc, le premier mouvement, c'est de dire à Philippe II, moi je t'ai servi, maintenant je veux rentrer pour régner sur mon duché. Et Philippe II lui demande de rester. Et en fait, il confie le gouvernement à des proches qui sont censés en fait former son fils, Ranuccio, qui est encore un adolescent, à l'apprentissage du métier de duc. Et donc, pendant 6 ans, il va gouverner par correspondance. Et donc, il n'a pas besoin de chercher une autre souveraineté, d'une certaine manière. Et je pense qu'il a vraiment placé assez haut l'éthique du service, mais tout en étant conscient qu'il est un prince. Je pense que c'est vraiment indissociable de sa personnalité. C'est presque un leitmotiv de sa correspondance. Il a un souci de la réputation, de sa réputation, qui est énorme.
Philippe II lui demande de rester aux Pays-Bas plutôt que de retourner à Parme. Il retrouvera sa ville de Parme avant de décéder.
Jamais.
Jamais.
Il reviendra à Parme dans un cercueil. Donc jamais il n'est revenu à Parme. Il l'a quitté en 1577, sans doute sans imaginer que son destin serait lié pour toujours aux Pays-Bas. Parme, pour lui, est présent à son esprit tous les jours. Il va beaucoup œuvrer pour réformer la justice, pour agrandir le territoire. Il fait construire une citadelle. C'est le seul ou principal legs architectural d'Alexandre à sa ville, qui est une immense citadelle, donc avec des constructions qu'on retrouve à Anvers et à d'autres endroits, qui n'a jamais véritablement servi, et qui a procuré beaucoup d'emplois à la population parmesane à un moment où la crise économique frappait de plein fouet ce duché. Donc d'une certaine manière, il y a aussi l'idée de s'occuper de sa population à travers effectivement une dépense militaire qui leur donnait des emplois.
Et sa population l'appréciait parce que justement il lui donnait
cette population n'a jamais rencontré, mais Alexandre est perçu effectivement comme un prince, et puis dont tout le monde se réjouit de ses succès, de sa place, de sa position, de son rapport à l'Espagne. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vraie puissance et qui continue de nourrir le projet d'une famille qui est puissante dans ses territoires, mais aussi à Rome, puisque son deuxième fils, Odoardo, qui est donc le frère cadet de Ranuccio, il va en faire un cardinal. Grâce à l'appui d'un pape qui est acquis à l'Espagne en 1591. Donc la dynastie farnèse continue. Et c'est ce cardinal, Odoardo, qui occupe le palais farnèse, qui aujourd'hui est le siège de l'ambassade de France à Rome, où l'on trouve effectivement les armes des farnèses. C'est pour ça qu'il y a des fleurs de lys sur la façade. C'est pas la France, c'est les farnèses.
C'est les farnèses. Voilà. Pour revenir à Alexandre Farnèse, donc il est né en Italie, il a combattu aux Pays-Bas, il a voyagé en Espagne, donc une grande diversité de lieux à traverser sa vie. C'est un terrain de recherche assez large pour l'historien qui doit partir à la recherche des archives. Vous parliez des nombreuses correspondances qu'il a pu avoir. Quel pays détient la majorité des archives le concernant Alexandre Farnèse aujourd'hui ?
Je dirais l'Espagne et la Belgique, avec des choses assez différentes, effectivement. Mais évidemment, il faut avoir recours aux deux types d'archives. Alors, ce qu'on va trouver en Espagne, en particulier aux archives à Simancas, donc qui est une citadelle au nord-ouest de Madrid, ce sont toutes les correspondances adressées par Farnèse en original au roi d'Espagne, annotées par celui-ci, qui est un personnage fascinant par son rapport à l'écrit. Donc on a beaucoup d'annotations, y compris des annotations pour lui-même, avec parfois des mots un petit peu saisis sur le vif, du type « mais est-ce bien Farnèse qui parle ainsi ?» Enfin voilà, donc on a le sentiment de l'entendre parler à haute voix en train de lire les missives d'Alexandre, donc des mémoires, enfin bon, tout ce qui est envoyé en fait à la cour d'Espagne. Ce qu'on va trouver en Belgique, en fait, ce sont des archives qui sont liées en fait à son activité de gouverneur et de capitaine, mais au plan local, donc avec beaucoup de suppliques, beaucoup de correspondances administratives, des relations également avec les territoires qui l'environnent, que ce soit la France, l'Angleterre, les territoires allemands, beaucoup de correspondances concernant la Franche-Comté, dont il est également le gouverneur aussi, et puis des correspondances qui sont adressées par le roi d'Espagne. Et puis il y a un dernier lot d'archives, dont j'aurais pu vous dire qu'il était le plus important, mais qui ne l'est plus depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est le lot des archives italiennes. Donc je vous ai dit que régulièrement Alexandre envoie des archives de son gouvernement à Parme. Il y a également toute la correspondance qu'il entretient avec ses parents, que ce soit son père ou sa mère, à qui il dit beaucoup de choses, qui, de mon point de vue, sont peut-être les archives les plus révélatrices de la personnalité d'Alexandre. Alors, ces archives étaient à Parme jusqu'au XVIIIe siècle, date à laquelle la dynastie farnèse s'interrompt. Elle passe aux Bourbons, qui règnent sur Naples, et qui font venir les archives de Parme à Naples pour constituer un ensemble d'archives dynastiques. Et en 1943, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les archivistes de Naples craignent que des bombardements américains destinés à libérer la ville de l'occupation allemande ne menacent les archives, et donc par précaution, ils l'éloignent dans une villa à une trentaine de kilomètres de Naples. Quelques temps plus tard, une troupe de soldats allemands passe devant la villa où étaient entreposées les caisses, et soupçonneux, préfèrent plutôt brûler tout ce qui s'y trouve, de peur qu'il n'y ait des informations éventuellement secrètes qui leur étaient dissimulées. Donc, plutôt par bêtise, par ignorance, par peur, que par une volonté de mal faire, de supprimer un patrimoine historique qu'ils auraient bien identifié. Quoi qu'on leur ait bien dit de quoi il s'agissait, mais ils n'ont pas voulu entendre. Donc ils ont brûlé l'essentiel de ce qui s'y trouvait. Donc on a quelques épaves de ces archives, mais on en a perdu l'essentiel.
Beaucoup, la majorité.
Et donc ça suppose que l'archiviste ou l'historien qui fait la biographie de Farnèse va également lire les archives de ses prédécesseurs, et en particulier le grand biographe de Farnèse, qui était Léon van der Essen, professeur à l'université de Louvain, donc qui a écrit une biographie en 5 volumes de Farnèse, qui est un peu hagiographique, qui est très tournée vers les opérations militaires. Et donc, ces archives sont conservées à Louvain, aux archives de l'université de Louvain, où je suis allé les consulter. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, parce qu'il les a utilisées. Et en fait, il prenait des notes sur des petits bouts de papier, et quand il avait utilisé dans un livre, il jetait la note. Donc, en fait, on a ce qu'il n'a pas utilisé, ce qui est déjà beaucoup. Et on mesure, si vous voulez, rétrospectivement tout ce qu'on a perdu. Et en même temps, il y a moyen quand même de faire quelque chose avec toutes ces petites notations qui sont lisibles. Et donc voilà, voilà le parcours archivistique qui suppose que l'historien fasse finalement le même parcours que son personnage.
Mais vous, donc au-delà du travail de votre prédécesseur, vous avez pu tenir, regarder, observer des lettres écrites d'Alexandre Farnèse, les quelques-unes qui ont été conservées. Dans quelle langue il écrivait ? Est-ce qu'il parlait la même langue ou alors il s'adaptait en fonction de ses interlocuteurs ?
Alors, l'éducation d'Alexandre a été assez complète, puisque sa mère donc, lui a fait apprendre... Bon, il parlait italien, c'était sa langue naturelle, et c'est sa première langue qu'il aura toujours. Il lui a fait apprendre le latin, il lui a fait apprendre l'allemand, le français. Mais la langue qu'il maîtrise par excellence, c'est l'espagnol, puisqu'il l'a apprise. Et donc, il parle espagnol de manière absolument impeccable. Il l'écrit également. Et donc, la manière dont il va user des langues reflète en réalité les impératifs auxquels il doit s'affronter. Donc, quand il écrit à Philippe II, il écrit en espagnol. Quand il écrit au roi de France, il écrit en français. Il est dans un espace plurilinguistique qui suppose chez lui, effectivement, d'user de toutes les langues en fonction de ses interlocuteurs. L'italien étant encore à cette époque-là, une langue d'échange qui facilite beaucoup le dialogue avec d'autres réalités. Je pense en particulier à Élisabeth Ière, à laquelle il écrit en italien et qui lui répond en italien.
Qui maîtrisait.
Voilà, parce que l'anglais n'est pas une langue comme aujourd'hui qui
à l'époque,
est, voilà, exactement,
aussi dominante.
Tout à fait.
Pour finir, je voulais m'arrêter un instant sur la peinture que vous avez choisie pour illustrer ce livre. Donc, c'est un portrait d'Alexandre Farnèse. C'est un portrait qui a été peint par une peintre italienne, Sofonisba Anguissola. Peut-être que vous pourriez décrire rapidement cette couverture, parce que le portrait d'Alexandre est très beau. Il a un air très juvénile. On a presque du mal à l'imaginer chef de guerre, gouverneur. Je crois qu'il est assez jeune sur cette sur ce
oui,
portrait.
Oui, alors c'est effectivement un choix que j'ai fait pour restituer précisément la double qualité de prince et capitaine. En 1586, il est qualifié de duc de Parme. On parle de Parme ou de duc. Donc prince et capitaine, ça me semblait bien correspondre à ce tableau qui a dû être peint avant ses 20 ans probablement. Il a peut-être 17 ou 18 ans. Ça fait partie de ces tableaux que demandaient les parents pour pouvoir les faire circuler, pour lui trouver une alliance matrimoniale à la hauteur de ses espérances. Ce portrait est un portrait qui le représente effectivement sous les traits d'un jeune homme de très bonne famille. C'est un dynaste, à l'évidence, qui a effectivement les habits les plus magnifiques. Alors effectivement, domine l'hermine, les passements d'or. Mais on le voit également avec un regard assez assuré et la main sur une épée. Donc, il me semblait que ça résumait assez bien, finalement, non pas ce qu'il a été, mais toutes les promesses de ce personnage qu'il a plutôt bien tenu, je crois, au cours de son temps. Voilà, c'est un portrait qui est connu, mais qui me paraissait intéressant de souligner, en particulier par la qualité de son auteur, son autrice en réalité, donc Sofonisba Anguissola, que l'on se met à redécouvrir comme d'autres peintres féminines.
Oui, qui est peu connu.
Voilà, donc effectivement... alors, le portrait reste toujours attribué à, parce qu'on n'a pas la signature, mais il y a un genre qui est effectivement un style qui rappelle beaucoup d'autres portraits qui, pour le coup, sont plus assurés.
Très bon choix. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olivier Poncet, pour toutes ces explications. Je rappelle le titre de cette biographie, Alexandre Farnèse, prince et capitaine, et c'est publié aux éditions Perrin, qu'on peut retrouver à la librairie de l'Institut, mais également dans plein d'autres librairies. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.